Les cours du Collège de France, Maria Melchior, chère Santé publique.
Bonjour, il est 10h, on va commencer pile à l'heure. Merci d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'addiction, avec ou sans substance. Voilà, le titre de la présentation est « Sommes-nous tous et toutes addicts ?» On va essayer de définir évidemment ce qu'est une addiction, en tout cas ce qu'est une addiction dans les enquêtes épidémiologiques qui consistent à essayer de mesurer et de suivre les grandes tendances de consommation ou de mésusage de différents types de comportements. J'aborderai rapidement la question des représentations qu'on peut avoir des addictions et la manière dont ces représentations sont ou non confirmées par les tendances observées dans les enquêtes épidémiologiques. On parlera un tout petit peu des facteurs de risque associés à différents types de conduites addictives et puis je finirai par évoquer peut-être quelques addictions de demain. Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandre Perret en deuxième partie de cours qui complétera donc cette présentation. Alexandre Perret est psychologue, chercheur à l'Université de Bordeaux et il abordera un tout petit peu plus spécifiquement les aspects cliniques et voilà la manière dont on aborde les addictions, pas seulement dans les grandes enquêtes, mais aussi au quotidien et face à des personnes qui sont concernées. Voilà, donc je vous propose tout de suite de commencer. Alors, évidemment, l'addiction est un terme qu'on connaît tous, qu'on utilise tous sans doute plus ou moins. Voilà, je vous dirai en quelques mots comment est-ce que ce terme est défini et d'où il vient. Et c'est pas quelque chose qu'on imagine comme étant positif, c'est plutôt un problème, c'est plutôt quelque chose qui évoque des dangers, des difficultés, des conséquences néfastes. Alors, vous savez peut-être que l'addiction, le comportement addictif et le fait d'utiliser en particulier des substances psychoactives pour changer notre état, c'est quelque chose de très très ancien. Il y a quelques années, une étude menée par des collègues espagnols a montré qu'on retrouve des traces de produits psychoactifs, en l'occurrence l'atropine et l'éphédrine notamment, dans des cheveux provenant d'hommes préhistoriques. Alors ce sont des restes qui ont été donc identifiés dans une grotte à Minorque, dans la Méditerranée, et qui proviennent de la période de la fin de l'âge de bronze. Donc environ 2000 ans avant, enfin entre 2000 et 800 ans avant Jésus-Christ. Et donc, ce qui a été retrouvé dans cette cave, ce sont des traces montrant que les hommes préhistoriques de cette époque utilisaient déjà des substances, alors évidemment naturelles, ils ne pouvaient pas les synthétiser, probablement dans le cadre de rites funéraires ou d'autres types de rites. Et c'est pour ça qu'elles ont été retrouvées dans cette grotte où les gens étaient enterrés, il y avait des traces de tombes. Il y a même des hypothèses suggérant que l'utilisation des premières substances psychoactives est ce qui a amené l'invention de la religion chez les humains. C'est-à-dire que ce sont les expériences, en particulier hallucinogènes, des expériences de déconnexion de son propre corps, qui ont amené les humains à penser qu'il y avait peut-être des forces extérieures, les humains, ou en tout cas les hommes préhistoriques, ou les humains très très précoces, à penser que voilà, il y avait quelque chose en dehors de nous et qu'on pouvait se rapprocher de cet au-delà, soit par des produits psychoactifs, soit peut-être en invoquant cet au-delà. Donc la tendance à utiliser des produits pour nous détacher de notre réel, de notre quotidien, c'est quelque chose de très très ancien. Je voulais aborder un autre point important avant de passer aux mésusages, aux questions de santé, etc. C'est aussi que évidemment on utilise des produits psychoactifs de plein de manières différentes, et c'est encore le cas, ça a toujours été le cas et c'est le cas encore aujourd'hui. Et je voudrais prendre l'exemple de l'opium qui est dérivé du pavot. Donc vous savez que le pavot, c'est une plante qui pousse également en Europe, mais qui est notamment cultivée en Asie, et qui, cultivée d'une certaine manière, peut donner lieu à un substrat psychoactif qui a été utilisé il y a très très longtemps. Déjà, on pense que les Sumériens, il y a plus de 3000 ans, utilisaient déjà différentes décoctions de pavot pour ses effets sédatifs. Il y a des traces de commerce du pavot dans la Grèce antique, Puis le pavot a été diffusé en Inde à partir du 9e siècle et bon, à partir de là, a commencé à être utilisé plus largement. En Europe, on utilisait de la teinture d'opium à partir du 18e siècle, notamment pour soigner certains maux, la toux notamment. Au 19e siècle, les fabricants industriels, enfin l'industrie pharmaceutique s'est emparée de l'héroïne, qui est une autre forme de transformation du pavot, pour là aussi en faire un médicament. Donc on vendait l'héroïne en pharmacie, et d'ailleurs c'était pas toujours sur prescription médicale, pour soigner la toux et la tuberculose. Et puis il y a eu d'autres avancées. On extrait aussi évidemment la morphine. Aujourd'hui on peut la synthétiser, mais initialement la morphine était également un autre produit qui était synthétisé à partir du pavot. Et évidemment la morphine est aujourd'hui utilisée comme un traitement antidouleur, mais vous savez qu'au 19e siècle c'était un produit qui était largement utilisé aussi au sein de la population et qui donnait lieu à certains types de mésusages. Mais voilà, pour finir sur la pharmacopée liée à différentes utilisations de l'opium, bon voilà, il y a la codéine, et puis un autre type de traitement antidouleur qui a donné lieu à énormément de mésusages aux États-Unis, qui est l'oxycodone. Donc tout ça pour dire que le pavot, et ce qu'on peut en extraire, est utilisé depuis très 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 longtemps par la médecine, dans la pharmacopée traditionnelle, et que il y a eu énormément de mésusages à partir du 19e siècle, pour des raisons qui étaient liées au commerce de l'opium, à sa diffusion, à la manière dont il était rendu accessible à certaines populations, avec en particulier les guerres de l'opium en Chine, bien sûr, avec des conflits commerciaux très importants entre la Chine et la Grande-Bretagne, qui, bien sûr, fabriquait de l'opium. L'opium était fabriqué en Inde, tout ça était lié au commerce colonial. Bon, pardon, je suis pas historienne, je vais pas vous faire un cours d'histoire sur l'opium, mais en tout cas, c'est une histoire vraiment très intéressante. Il y a eu différents mésusages jusqu'à évidemment l'épidémie d'utilisation d'héroïne au XXe siècle, qui est un peu derrière nous, mais aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, vous savez qu'il y a une énorme épidémie d'overdose liée au mésusage des opiacés. C'est intéressant, c'est en partie lié à la diffusion au sein de la population de médicaments opiacés très très puissants, d'antidouleurs très puissants, qui au début des années 2000 étaient prescrits de manière absolument incontrôlée, avec quand même l'action très active des laboratoires pharmaceutiques qui produisaient ces médicaments et qui ont engendré des dépendances et des mésusages donnant lieu y compris à des overdoses. Ici il s'agit des chiffres de décès par overdose aux États-Unis, donc dont vous voyez qu'ils ont énormément augmenté à partir des années 2010 et qui sont en partie liés à l'utilisation de médicaments prescrits, donc en particulier l'oxycodone dont je parlais, mais en fait la diffusion de l'oxycodone au sein de la population générale a donné lieu a induit énormément de consommation et une partie des usagers, une fois qu'ils étaient dépendants de ce produit qui crée une dépendance importante, ont switché et sont passés à l'utilisation d'autres types d'opiacés, notamment l'héroïne et encore plus ces dernières années le fentanyl, qui est un autre opiacé de synthèse extrêmement puissant et comme vous voyez qui donne lieu à des overdoses, donc des décès liés à son mésusage. Voilà, mais tout ça pour dire que c'est une histoire complexe et où évidemment, on utilise des produits psychoactifs, enfin nous tous, hein, je pense, ne serait-ce que le café par exemple, ou différentes formes de caféine ou de théine. Évidemment, tous ces produits ne sont pas équivalents, mais on les utilise dans une certaine mesure tous et toutes, et en même temps, ils peuvent aussi donner lieu à des mésusages. Et c'est très compliqué parfois il y a des histoires qui sont très complexes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'histoire de l'héroïne, je vous invite à écouter un très bon podcast sur France Culture. C'est la série documentaire qui a fait une série d'émissions sur l'histoire de l'épidémie d'héroïne en France, pour le coup. Donc, c'est uniquement le XXe siècle et plutôt les 50 dernières années que tout ce que je vous ai dit auparavant. Mais voilà, tout ça pour dire que les addictions, alors l'héroïne notamment, mais pas uniquement, sont quand même, dans nos sociétés, en fait, sont liées à plein de facteurs sociaux, politiques, culturels, et que les réponses... Alors, les épidémiologistes cherchent à mesurer les usages, essayer de comprendre comment réduire les risques. On parlera de ça aussi dans la deuxième partie du cours d'aujourd'hui. Voilà, d'une certaine manière, les drogues et les addictions ont toujours été avec nous et le resteront probablement toujours. Alors, justement, qu'est-ce qu'une addiction et comment est-ce qu'on définit l'addiction aujourd'hui ? Donc, peut-être juste une remarque. Certains d'entre vous savent peut-être ou vous vous rendez compte qu'on est passé aujourd'hui au terme d'addiction alors qu'on parlait, il y a encore peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, de toxicomanie, d'autres types d'usages. Tout ça n'est pas anodin. Évidemment, il y a une approche médicale de l'addiction dont je vais vous parler aujourd'hui qui a un peu pris le pas, encore que, bon, ça se discute peut-être en ce qui concerne les représentations, mais qui est très, très, très ancrée aujourd'hui, qui est très inscrite. Ça n'a pas toujours été le cas. Et le mésusage de différents types de produits est évidemment aussi lié à une réponse policière, judiciaire, etc. Et là, on parle peut-être moins d'addiction que de délinquance ou d'autres types de comportements. Mais en tout cas, l'addiction, c'est un terme alors qui n'est pas français, c'est un anglicisme. Donc c'est, comme le disent ici les collègues qui ont publié il y a quelques années sur ce sujet. Donc c'est un terme qui s'est progressivement substitué à celui de toxicomanie. Alors c'est un terme anglais qui vient du latin. Et en latin, ça, addicere, ça voulait dire à. Et le terme exprimait l'appartenance en termes d'esclavage. Alors c'est C'est-à-dire qu'on parlait de, on disait être addicté au Moyen-Âge lorsque on était débiteur, par exemple, de quelqu'un et on devait par son travail rembourser sa dette. Il y a tout de suite la notion de dépendance et de lien auquel on ne peut pas se soustraire. Par la suite, dans la langue anglaise, dès le XIVe siècle, le terme d'addiction a pu désigner la relation contractuelle de soumission d'un apprenti à son maître, puis se rapprocher peu à peu du sens moderne en désignant des passions nourries et moralement répréhensibles. Toujours en langue anglaise, le mot addiction est totalement intégré dans le langage populaire, mais je pense que c'est vrai en français aussi aujourd'hui, pour désigner les passions dévorantes et les dépendances. Et donc voilà, bien sûr, là, les épidémiologistes qui aiment beaucoup définir les mots et les concepts utilisés, vont passer beaucoup de temps à réfléchir à comment on définit ce qu'est vraiment une addiction de ce que ça n'est pas. Sachant que, en tout cas, alors on va parler des addictions avec produits mais aussi sans produits, puisqu'il existe des addictions comportementales qui n'impliquent pas un produit psychoactif. Mais pour les produits psychoactifs, et bon, peut-être également pour les addictions comportementales, en fait, le risque se situe le long d'un continuum. C'est-à-dire que... À la différence d'autres types de troubles psychiques qui peuvent émerger d'un coup être d'emblée très sévères, l'addiction, avant de devenir dépendant, on expérimente un produit, on l'utilise peut-être de temps en temps, puis on l'utilise de plus en plus dans des situations à risque ou de manière particulièrement importante. Alors l'abus, c'est un stade au-dessus, c'est-à-dire l'utilisation inadaptée qui donne lieu à une altération du fonctionnement, je vais y revenir dans un instant, et qui est source de souffrance. La dépendance, c'est la perte de liberté. Alors la pharmacodépendance, quand il y a un produit psychoactif, la tolérance liée à une utilisation répétée qui fait qu'on a besoin de consommer de plus en plus de produits pour ressentir les mêmes types d'effets. Et puis, ça peut aller jusqu'à un syndrome de sevrage, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le manque. On ne peut pas arrêter de consommer de l'héroïne, mais de l'alcool non plus, quand on est dépendant du jour au lendemain. Ça peut être très dangereux. L'organisme s'est habitué à consommer donc il y a des stratégies de sevrage adaptées pour accompagner les gens qui souhaitent arrêter ces addictions de manière à ce que ça ne provoque pas de problèmes de santé autres. Jusqu'à récemment, dans la classification internationale des maladies, on distinguait globalement l'abus de la dépendance dans les classifications médicales, c'est-à-dire qu'il y avait deux stades, si vous voulez, d'addiction. De toute façon, le problème d'usage est défini par une consommation qui échappe au contrôle de la personne, c'est-à-dire une consommation qui dépasse la consommation qu'on aimerait avoir, pour des raisons parfois physiologiques, mais qui peuvent aussi être psychologiques ou liées à l'environnement dans lequel les personnes consomment. J'y reviendrai. Les effets néfastes sur la santé, bien sûr, mais aussi sur la scolarité si on est à l'école, le travail si on travaille, sur sa vie familiale si on a une famille dont on doit s'occuper. C'est vraiment les deux éléments clés, la perte de contrôle et l'impact négatif des conduites sur le reste de la vie. Donc la classification internationale des maladies a gardé cette distinction abus et dépendance, alors la dépendance étant donc un stade au-dessus et avec l'idée d'une plus forte, d'un lien biologique et d'un impact physiologique plus important. Ce que la dépendance définit dans la classification internationale des maladies, c'est donc un désir puissant ou compulsif d'utiliser une substance, des difficultés à contrôler cette utilisation, la possibilité donc d'un syndrome de sevrage physiologique, une tolérance aux effets de la substance psychoactive, l'abandon progressif d'autres sources de plaisir et d'intérêt au profit donc de l'utilisation de cette substance psychoactive, l'augmentation du temps passé à s'en procurer, à la consommer ou à récupérer de ses effets, et la poursuite de la consommation malgré ses conséquences manifestement nocives. Donc tout ça définit au moins trois de ces symptômes à la fois, une forme de dépendance. Alors, ça, c'est la classification internationale des maladies. Le manuel diagnostique américain, qui est une autre classification permettant de définir les troubles psychiatriques au sens large, a fait évoluer cette définition. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'abus ou de dépendance dans le DSM, mais de troubles de l'usage, dans l'idée qu'on est sur un continuum de risque et que, en fait, c'est très compliqué de savoir à quel moment on passe de l'abus à la dépendance. Parfois, il peut y avoir... on imagine, bien sûr, dans cette définition de la dépendance, quelqu'un qui est dépendant de l'héroïne, comme je le disais, ou de l'alcool, qui a donc des phases de consommation, qui est très impliqué dans cette consommation, etc. Mais il existe d'autres formes d'addiction, au cannabis, au tabac, par exemple, qui ne peuvent pas être définies de cette manière-là. Donc... sachant qu'on est sur un continuum, le DSM a fait évoluer la définition. Et donc, on parle maintenant de troubles de l'usage ce sont les mêmes critères diagnostiques, les mêmes symptômes. Il y en a d'autres, ils sont un tout petit peu plus détaillés. Par exemple, on distingue l'incapacité de remplir des obligations importantes de l'usage, même quand il y a un risque physique, des problèmes personnels ou sociaux qui peuvent arriver. Et globalement, il existe trois stades de troubles de l'usage. Un trouble léger quand on a deux ou trois de ces critères, un trouble modéré quand on en a quatre ou cinq et un trouble sévère quand on en a six ou plus. L'autre différence entre la classification internationale des maladies et le DSM, c'est que cette définition inclut aussi les troubles de l'usage qui ne sont pas liés à des substances psychoactives et il en existe deux dans les... Il y a deux types d'addictions comportementales qui sont reconnues aujourd'hui dans les classifications internationales. Il s'agit de l'addiction aux jeux d'argent et de hasard, qui ne sont pas récentes. Ce sont des addictions anciennes qui évoluent avec l'évolution des pratiques de jeu et notamment le jeu en ligne. Mais les jeux d'hasard et de argent ont... si vous avez lu Le Joueur de Dostoïevski ou La Dame de Pique, par exemple, de Pushkin, ils décrivent très très bien l'addiction au jeu et la manière dont ce comportement peut complètement être incontrôlé et induire des problèmes, pas uniquement financiers, mais aussi de vie sociale. L'autre addiction comportementale sur laquelle il existe un consensus aujourd'hui, c'est le trouble de l'usage du jeu vidéo, qui est apparu récemment, puisque l'expansion des jeux vidéo est assez récente, qui concerne plus particulièrement les jeux vidéo en ligne, et dont on estime qu'environ 5% peut-être des adolescents et des jeunes adultes, en plus les garçons que les filles, seraient touchés. On en reparlera. Si on vous parle d'addiction au chocolat, au sucre, ce ne sont pas des addictions qui sont reconnues par les classifications internationales. Ceci n'empêche pas qu'on puisse avoir des comportements compulsifs voilà, qui sont peut-être quelque part en amont, en aval plutôt sur le continuum que je vous ai montré, et qui peuvent poser des problèmes aussi aux personnes. Bon, le sucre et le chocolat, ce sont peut-être des exemples anodins, mais bon, il y a des troubles, par exemple des comportements sexuels compulsifs qui peuvent mettre les gens à risque, etc. Donc il y a d'autres formes de comportements compulsifs, mais qui ne sont pas forcément reconnus comme des addictions au sens médical du terme, et qui du coup sont aussi moins étudiés dans les enquêtes épidémiologiques qui cherchent à évaluer l'ampleur des comportements addictifs au sein de la population. Alors, quand on parle des addictions, ce qui est souvent évoqué, c'est est-ce que c'est quelque chose qui relève de la volonté des personnes? Est-ce que c'est une maladie? Il y a eu beaucoup d'allers-retours sur ces questions. Encore une fois, aujourd'hui, il y a plutôt un consensus dans le champ de la médecine sur le fait qu'il s'agit d'une maladie du cerveau, dont on connaît un peu les facteurs de risque, mais pas entièrement. Ce qu'on sait quand même, c'est que grâce aux travaux menés en neurosciences, c'est que c'est une maladie du cerveau qui implique ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire que on a dans notre cerveau un circuit qui implique différentes structures. Le cortex préfrontal qui est en partie en charge des décisions que l'on prend, mais aussi, par exemple, différentes parties de l'amygdale, etc., qui sont liées à la manière dont on encode et dont on se rappelle des expériences qu'on a vécues, qui sont donc sous l'influence de différents neurotransmetteurs, enfin qui communiquent, toutes ces différentes structures communiquent entre elles au travers de différents neurotransmetteurs, dont la dopamine, qui est très fortement impliquée. Et des recherches donc menées sur différentes formes d'addiction montrent de manière assez consensuelle que le circuit de la dopamine est déréglé lorsqu'on a une forme d'addiction, que ce soit une addiction avec ou sans produit. On a pensé pendant très longtemps que, par exemple, la consommation d'alcool, admettons, stimule le circuit de la dopamine et que cette dopamine qui est diffusée à la suite d'une consommation envahit le cerveau, entre guillemets, enfin en tout cas, et donc procure tellement de plaisir que, en fait, ce plaisir inhibe la décision de ne pas consommer. Enfin voilà, j'essaie de simplifier au maximum. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas si simple que ça et que il y a en fait une forme d'apprentissage. Quand on a une addiction, c'est un comportement répétitif, évidemment, et donc il y a une forme d'apprentissage qui fait que en réalité la dopamine est libérée avant même qu'on consomme ou qu'on joue, juste à l'idée même de consommer. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend à ressentir une sensation de plaisir à l'évocation du produit auquel dont on est dépendant, du jeu, etc. Donc, il y a à la fois évidemment ces effets biologiques de la consommation du produit, la manière dont notre cerveau s'accoutume à ça, mais il y a vraiment aussi des aspects psychologiques qui jouent un rôle probablement très important. Quoi qu'il en soit, les produits et les comportements addictifs dérèglent le circuit de la récompense avec un phénomène progressif d'accoutumance. Donc c'est pour ça en partie qu'il y a une forme de tolérance qui se crée, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus en plus de produits ou d'en consommer plus fréquemment, pas seulement pour ressentir les effets psychoactifs, mais aussi pour que ce circuit du plaisir et de la récompense au sein dans le cerveau soit stimulé, d'accord. Il semblerait qu'avec le temps, il y ait même un dérèglement du fonctionnement des structures cérébrales qui sont en charge de gérer la motivation, la mémoire, etc. Ce qui fait que c'est très compliqué quand on est réellement dépendant de s'arrêter tout seul. On n'a plus. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on observe en clinique aussi chez un certain nombre de personnes qui sont réellement dépendantes, l'absence de volonté, de motivation à s'arrêter, mais ça s'explique par des facteurs psychologiques, certaines habitudes et certains comportements, mais aussi par certains aspects des effets cérébraux de l'addiction. Alors, Aux États-Unis, on est vraiment passé à une définition de l'addiction comme une maladie du cerveau. L'idée, c'est aussi de déstigmatiser, parce que voilà, on en parlera peut-être un petit peu, mais évidemment, le fait d'avoir une addiction, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre et qui est en général vu très négativement par la société et par l'entourage. Donc les Américains ont pris le parti, les médecins aux États-Unis ont pris le parti de vraiment ne parler de l'addiction que comme une maladie du cerveau, pour dire aux gens que d'abord, c'est pas de leur fait, mais aussi pour essayer de faire en sorte que, enfin, de favoriser l'accès au traitement et de permettre d'en parler plus facilement. Voilà, je ne sais pas si ça marche forcément ou pas, mais en tout cas, en France, c'est pas encore complètement la vision qu'on a de l'addiction, je crois. Mais voilà, évidemment, les mêmes processus biologiques sont à l'œuvre, qu'on soit américain ou français. Je parlerai dans quelques instants d'autres facteurs de risque, mais je voulais quand même voilà, d'abord aborder le circuit de la dopamine qui est par ailleurs assez bien connu dans le grand public et voilà, dont on sait qu'en fait il fonctionne un peu différemment de ce qu'on pensait pendant très longtemps. Alors ça, c'est la manière dont les médecins et les épidémiologistes abordent l'addiction. Je voulais quand même dire quelques mots sur le fait que d'autres professionnels s'intéressent à ces questions et vous parlez rapidement des représentations au sein de la société de ces questions. Alors, les addictions sont un sujet très actuel. Évidemment, on se saisit la justice, la police, les hommes politiques aussi, beaucoup. Quand on parle des addictions dans les médias, malheureusement, c'est la plupart du temps de manière assez sensationnelle, c'est-à-dire soit en disant qu'on a un discours trop libéral qui fait que voilà, tout le monde consomme. Là, j'ai pas mentionné d'extrait de presse sur la libéralisation de, par exemple, la légalisation du cannabis qui a eu lieu dans un certain nombre de pays. En France, l'opinion publique est assez partagée à ce sujet, mais en général, quand ce sujet est abordé dans les médias, c'est plutôt sous l'angle de l'inanité du débat pour dire que voilà, ça va conduire à encore plus de consommation, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans les pays qui ont légalisé, mais voilà, ça c'est un autre sujet. On parle beaucoup de la diffusion de la cocaïne, ça vous en avez certainement entendu parler aussi. D'ailleurs là, c'est un titre d'article du Monde de la semaine dernière qui indique que la cocaïne a maintenant détrôné le cannabis sur le marché de la drogue. Donc quand on lit ça, on peut se dire on est envahi par les drogues partout. Et bon, c'est pour ce qui est de la cocaïne, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation de l'utilisation et une diffusion surtout dans des cercles et sur le territoire à des endroits où ce produit n'était pas consommé auparavant. Donc il y a une évolution des tendances, ça c'est sûr, et qui est liée aussi à l'évolution du marché et du trafic, c'est certain. On peut avoir l'impression en lisant et en écoutant ce type de rapport dans les médias que on est un peu envahi. Alors qu'en est-il, que montrent les enquêtes épidémiologiques sur l'ampleur des problèmes d'addiction en France et notamment en population générale? Donc on a beaucoup d'enquêtes en France qui permettent de documenter les tendances, des enquêtes réalisées par Santé publique France ou par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui sont en général réalisées par téléphone et on interroge les personnes qui acceptent de répondre sur leur niveau de consommation d'un certain nombre de produits. Alors l'addiction la plus fréquente en France, c'est la dépendance au tabac. Ça ne vous surprendra peut-être pas. En 2024, un quart des personnes de 18 à 79 ans consommaient du tabac, dont 17% de manière quotidienne. Et par ailleurs, le tabac est aussi un produit très nocif, alors très très addictogène. Donc on estime que la nicotine est le produit pour lequel le taux de passage de l'expérimentation à la dépendance est le plus élevé. C'est plus élevé que les opiacés ou d'autres types de produits. Et donc, beaucoup de personnes qui expérimentent le tabac deviennent dépendants. C'est une addiction qui a tendance à durer dans le temps. Et donc, on estime qu'il y a environ 75 000 décès liés au tabac par an en France. La deuxième addiction la plus fréquente, c'est la dépendance à l'alcool, enfin le trouble de l'usage de l'alcool. Donc, on n'a pas de chiffres très précis sur exactement la proportion de personnes qui ont des troubles de l'usage de l'alcool. Néanmoins, plus de 30% des personnes en France voilà, consomment de l'alcool de manière hebdomadaire et 7% tous les jours, ce qui sont des indicateurs de consommation probablement assez élevés. C'est pas forcément, voilà, j'en reparlerai rapidement, c'est pas forcément une dépendance, mais voilà, comme on est sur un continuum, plus on consomme fréquemment et des doses élevées, plus le risque de dépendance est important, sachant que, comme vous le savez peut-être, il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, c'est-à-dire que toute consommation d'alcool présente un risque. Alors évidemment, les consommations très faibles induisent des risques pour la santé très faibles, mais néanmoins, on sait maintenant que les cancers du sein, par exemple, et les cancers du côlon sont liés à toute consommation d'alcool, mais avec un risque très faible si on consomme très peu, hein, encore une fois. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a établi un indicateur qui est la consommation à moindre risque et qui est pas plus de 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres à chaque fois. Et si possible, un jour où on ne consomme pas. Voilà, donc j'en profite voilà, pour faire un brin de publicité pour les collègues de santé publique. Donc, c'est pas très simple. Mais c'est pas plus que 10 verres par semaine, pas plus que 2 verres en une fois et des jours sans consommation. Voilà. Donc là, on réduit significativement son risque moyen d'avoir des problèmes de santé liés à l'alcool. Voilà. Et la troisième addiction la plus fréquente, c'est les consommations de cannabis. Qui quand même concerne beaucoup moins de personnes, hein, puisqu'on estime que 3% des personnes en France ont un usage régulier du cannabis, et 10%, donc un adulte sur 10 a consommé au cours de l'année écoulée, mais la plupart du temps de manière occasionnelle sans que ça présente de risques importants pour la santé. Enfin, pour finir sur les jeux d'argent et de hasard, ils sont très diffusés au sein de la population générale et on estime là aussi qu'à peu près 3% des personnes c'est-à-dire 3% des joueurs ont un comportement à risque et 1,5%, alors c'est évidemment des estimations, ce sont des estimations très, très imprécises sans doute, environ 1,3% des personnes sont des joueurs excessifs. C'est la même prévalence que la schizophrénie ou les troubles bipolaires, par exemple. Voilà. Alors, si on regarde en face, parce que vous pourriez me dire, bon, ça c'est la manière dont on présente le trafic de drogue, la cocaïne dans les médias, certes, ne se reflète pas dans les données épidémiologiques sur la santé des Français, mais il y a d'autres types de problèmes qu'engendrent ces trafics, et bien sûr c'est le cas, notamment des problèmes donc avec la justice. Mais je voulais juste attirer, donc la justice s'intéresse aussi et la police à ces consommations et au trafic lié de manière différente. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que quand on regarde donc le nombre de personnes mises en cause pour usage de stupéfiants en France depuis 2016, en fait on voit des chiffres relativement stables. Alors en particulier, là ce qui a évolué, ce sont les mises en cause pour usage de stupéfiants via des amendes forfaitaires. Vous savez que en 2020, le gouvernement a mis en place l'Assemblée nationale a voté la mise en place d'amendes forfaitaires pour usage de stupéfiants. Pour simplifier le travail de la police et si quelqu'un est interpellé en train de consommer un produit, la plupart du temps du cannabis, il peut être verbalisé sur place et effectivement, voilà, il y a un certain nombre de verbalisations qui sont plus rapides à mettre en œuvre, qui évitent d'engorger le système judiciaire avec des interpellations d'usagers de cannabis dont les peines sont relativement faibles. Donc là, vous voyez qu'en effet, les mises en cause d'usagers de stupéfiants en dehors des amendes forfaitaires ont un petit peu baissé, puisque les amendes forfaitaires ont exactement été mises en place pour remplacer en partie le travail de la justice et que visiblement elles sont utilisées. Mais quand on regarde ici, par exemple, les mises en cause pour trafic de stupéfiants, les chiffres sont relativement stables dans le temps. Après, ça n'empêche pas que les trafics soient plus visibles. Voilà, c'est un autre sujet. Mais par contre, quand on regarde les chiffres, que ce soit de consommation ou de travail de la justice, on ne voit pas d'évolution massive. Il y a une autre manière d'avoir une vue d'ensemble sur ce que représentent les addictions dans la société. C'est Pierre Kopp, qui est économiste, qui a donc essayé d'établir le coût social qui recoupe alors à la fois les conséquences de la consommation, et du trafic de drogue. Alors, à la fois en termes de ce qui s'appelle les coûts externes, c'est-à-dire perte d'années de vie, de qualité de vie, de production pour les entreprises si on est dépendant. Le coût pour les finances publiques qui est notamment lié aux traitements médicaux, aux actions de prévention et de répression. Les recettes, enfin tout ça est équilibré par rapport aux recettes pour les finances publiques qui viennent principalement des taxes. Et donc vous voyez que même en prenant en compte le coût qu'engendre donc la santé, la prévention, la répression, le tabac et l'alcool sont bien loin devant les drogues illicites en termes d'impact et de coût social. En tout cas en France. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas que les addictions liées aux drogues, autres que l'alcool et le tabac, ne sont pas possiblement graves et importantes. C'est juste que quand on prend une vision d'ensemble à l'échelle de la population, c'est quand même l'alcool et le tabac qui sont les produits les plus consommés en France. Alors, comment les choses ont-elles évolué dans le temps? Pour le tabac, on voit quand même une baisse progressive. Alors là, c'est depuis 2017, mais en fait, cette baisse est bien sûr plus ancienne. Elle s'est accentuée en 2017 avec la mise en place d'un plan national de lutte contre le tabac qui a notamment conduit à l'augmentation des prix, au changement de packaging, à l'interdiction de fumer dans certains lieux publics. Et ces politiques, visiblement, ont porté leurs fruits puisque... il y a aussi, bien sûr, la prise en charge, le remboursement des substituts nicotiniques pour que les personnes qui fument aient plus de facilité à s'arrêter de fumer. Et vous voyez que, dans l'ensemble, ces politiques ont l'air de fonctionner. Je mentionne juste le vapotage, alors qui est un sujet en soi, qui était principalement, la cigarette électronique jusqu'à récemment était principalement utilisée par des personnes qui cherchaient à s'arrêter de fumer. On estime que 8% de la population vapote actuellement, donc pas forcément tous les jours, mais quand même de manière régulière. Alors à ça s'est greffée une tendance que vous avez peut-être remarquée, qui est celle du vapotage des adolescents. Le vapotage en soi ne présente pas autant de risques pour la santé que le tabac. Néanmoins, le risque principal, c'est qu'une fois qu'on est dépendant à la nicotine, on passe à d'autres produits, et notamment au tabac. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Le tabagisme chez les adolescents avait entièrement décliné et était presque réduit à néant. Avec la diffusion de la cigarette électronique, il y a quelques années, en fait, on voit une augmentation maintenant du tabagisme des adolescents, puisque une fois qu'on est dépendant à la nicotine, on va vapoter, mais on va aussi consommer d'autres types de produits. Mais quand même, il y a une baisse globalement, donc c'est plutôt bon signe. Alors pour l'alcool, on observe aussi une évolution des tendances, sachant que l'alcool, la consommation d'alcool est bien plus complexe que la consommation de tabac. En fait, comme je disais, on n'a pas de chiffres précis sur le trouble de l'usage et on peut consommer de l'alcool quotidiennement. C'est ce qui était encore la norme en France il y a quelques décennies. Mais vous voyez que là, c'est cette courbe rouge ici. C'est une tendance qui est vraiment à la baisse. Néanmoins, en 2021, 8% de la population buvait de l'alcool tous les jours. Il y a aussi des consommations... Plus rare, mais peut-être plus importante, qu'on appelle les alcoolisations ponctuelles importantes, qui, pour le coup, ont un peu moins diminué dans la population. Vous voyez que ici, à peu près 16% des personnes ont une consommation d'alcool importante au moins une fois par mois. Alors, une consommation d'alcool importante, c'est 5 verres en une même occasion, 5 verres ou plus. Une même occasion, l'idée, c'est que c'est une sortie, un repas, en quelques heures. Et donc 5% de la population a des alcoolisations ponctuelles importantes chaque semaine. Et on estime que globalement, probablement une personne sur 10 en France a un trouble de l'usage lié à l'alcool de sévérité diverse. Donc la consommation d'alcool néanmoins a diminué. Ce qui diminue le plus, c'est la consommation quotidienne. Mais les alcoolisations ponctuelles importantes pourraient aussi être en baisse. Et puis pour finir sur le cannabis, c'est à la fois un produit qui s'est énormément diffusé au sein de la population générale. Vous voyez qu'une personne sur deux en France en a déjà consommé au cours de sa vie. Mais en même temps, il y a une stagnation. Alors, on parle parfois de saturation, voilà, de, c'est-à-dire que même un produit très 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 diffusé, à un moment donné, ne va pas se diffuser, enfin, ne va pas être consommé plus que un certain seuil, parce que toutes les personnes qui sont possiblement à risque ou intéressées vont pouvoir s'en procurer et le consommer, et les autres ne sont pas, voilà, ne sont pas intéressés ou ne sont pas attirés par ce produit. Et donc, vous voyez que, voilà, on estime que une personne sur 10 en France a consommé du cannabis dans les 12 derniers mois et 3% environ ont un trouble de l'usage du cannabis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des évolutions très marquées chez les adolescents. Là, ce sont aussi des enquêtes menées par les collègues de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui s'appelait l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies auparavant et qui a changé de nom. Donc, vous voyez qu'en particulier, alors, l'expérimentation, et du coup, les usages de tabac, alcool et cannabis ont énormément chuté chez les adolescents. C'est assez historique et je ne sais pas si qui que ce soit avait prédit une telle baisse. Ces tendances étaient déjà à la baisse, mais depuis l'épidémie de Covid, elles se sont accentuées. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la plupart des addictions commencent à l'adolescence et si on ne consomme pas quand on est adolescent, le risque de développer une addiction plus tard au cours de la vie est quand même vraiment limité. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Alors pour parler quand même rapidement des autres types de produits, ça c'est l'expérimentation d'alcool, j'en reparlerai après. Voilà, pour parler des autres types de produits, encore une fois, si on prend une vision assez large, donc oui, la consommation de cocaïne a augmenté et concerne donc à peu près 3,7 millions de personnes ont déjà consommé, dont 1 million au cours de, enfin on estime qu'environ 1 million en ont consommé au cours de l'année passée, ainsi que les différents types de, enfin l'ecstasy, certains stimulants. Quant à la consommation d'héroïne, elle est plutôt stable. Alors, quelques mots sur les facteurs de risque et comment est-ce qu'on explique ces addictions. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir un risque plus élevé de devenir dépendants que d'autres, sachant que quand certains produits comme l'alcool ou le tabac sont très 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 largement diffusés au sein de la population, on voit bien que toutes les personnes qui vont essayer n'ont pas les mêmes risques de devenir dépendants. Ces risques sont très diversifiés. Donc le modèle, l'explication la plus utilisée dans ce domaine, c'est le modèle biopsychosocial, qui, comme son nom l'indique, essaie de mettre en lien des facteurs biologiques. Donc par exemple, selon l'âge qu'on a, le genre, je ne l'ai pas dit, mais les hommes globalement sont beaucoup plus à risque d'addiction, deux fois plus à risque en moyenne que les femmes. Certaines réactions physiologiques, on ne réagit pas de la même manière aux produits. On peut avoir, pour ce qui est du cannabis, par exemple, le fait d'avoir une expérience négative la première fois qu'on consomme, qui est probablement liée à la manière dont on métabolise le produit, est un facteur de protection, c'est-à-dire que les personnes qui réagissent très mal, en général, ne continuent pas à consommer. On n'absorbe pas les produits non plus tous de la même manière. Donc, des facteurs psychologiques, les problèmes de santé mentale, la dépression notamment, et l'hyperactivité, inattention ont été identifiés comme des troubles qui induisent un risque élevé d'addiction plus tard au cours de la vie, mais aussi les croyances ou les représentations qu'on a nous-mêmes des produits. Certains produits sont perçus, par exemple la cocaïne, c'est ce qui revient dans les enquêtes, est perçu comme un produit relativement peu dangereux. Quand on interroge les Français à ce sujet, ils ont l'impression qu'on ne devient pas dépendant, que c'est un produit festif, qu'on peut utiliser de manière occasionnelle. C'est plus compliqué que ça, et évidemment, il y a des personnes qui deviennent dépendantes, mais ce n'est pas la représentation qu'on en a. Et puis, des facteurs sociaux, des facteurs socio-économiques notamment, les addictions, comme d'autres, comme dans d'autres domaines de la santé mentale, sont un domaine où il y a d'importantes inégalités sociales. J'ai ajouté un autre aspect qui est vraiment très important et qui est un axe de prévention important, c'est l'accessibilité des produits, c'est-à-dire que c'est d'où l'idée de jouer sur les prix, par exemple, et d'augmenter les prix du tabac notamment. Il y a toute une discussion sur les prix de l'alcool, qui est beaucoup plus complexe parce que l'alcool, c'est aussi un secteur économique et peut-être, il y a d'autres choses qui se jouent, mais voilà, si on augmente le prix à la vente d'un produit, bah, il est plus difficilement accessible. Alors déjà pour les adolescents, donc ils ne commencent pas à consommer, mais il est aussi plus difficile d'accès pour les adultes et voilà, ça peut entraîner un questionnement sur ses consommations. Alors pour finir, parce que j'aimerais qu'on ait peut-être un moment pour les questions, voilà. On sait un tout petit peu quels sont les facteurs qui induisent l'augmentation du risque d'addiction chez certains individus. Mais pourquoi est-ce que les addictions sont aussi fréquentes dans nos sociétés? Alors je vais revenir encore une fois à l'histoire pour vous dire que si on regarde le tabac par exemple, c'est un produit qui est consommé depuis très 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 longtemps. Les Mayas l'utilisaient dans des cérémonies notamment religieuses qu'ils organisaient, qui a été donc découvert et ramené en Europe par les colons espagnols, qui a commencé à être utilisé de manière un tout petit peu plus organisée et surtout qui a donné lieu à l'expansion des... Enfin, qui a été cultivé de manière très active en Amérique du Nord à des fins médicinales. Là aussi, hein, au XVIIIe siècle, on utilisait le tabac comme médicament. Puis, avec la révolution industrielle, on a inventé les machines à rouler qui permettaient de fabriquer beaucoup plus de, enfin, qui permettaient de fabriquer des cigarettes en fait, donc qui ont facilité la consommation. Puis évidemment, s'est greffé à ça le capitalisme, le marketing et les grandes compagnies, les grands industriels se sont saisis du sujet et ont commencé à le diffuser partout. En Europe, il y a plutôt une baisse du tabagisme dans d'autres pays que la France, mais vous savez que les compagnies, les industriels du tabac continuent à essayer de trouver de nouveaux marchés en Asie, en Afrique. Maintenant, alors d'abord, ils ont beaucoup investi dans le vapotage aussi, et puis ils développent des produits à moindre risque, le tabac chauffé notamment. Donc voilà, c'est une industrie qui continue d'être très active et très prospère. Donc je voulais juste mentionner cet ouvrage de David Courtright, alors qui est ici, c'est en anglais, mais il a été traduit en français, qui est un historien des addictions et qui essaie de prendre une vision distanciée de pourquoi est-ce que les addictions sont aussi fréquentes dans nos sociétés, en disant que on promeut l'individualisme, donc la performance, l'autonomie, le fait d'être toujours au top et certains produits aident à cela. Il y a une diminution du contrôle social, donc il y a une plus grande acceptation, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, des addictions, parce que c'est pas une mauvaise chose parce que ça contribue peut-être à la déstigmatisation et au fait que pour les personnes qui sont malades d'une addiction, on porte sur elles un regard moins négatif. Mais néanmoins, ça diffuse aussi l'idée que c'est comme ça, tout le monde est amené à consommer. On vit dans une société très stimulante et on est en permanence bombardé d'informations, etc. Ce qui rejoint certains aspects des addictions. Et il parle même de capitalisme limbique, c'est-à-dire, c'est pour ça que je citais l'industrie du tabac, c'est-à-dire qu'un certain type d'industriels, qui prospèrent dans le système capitaliste dans lequel nous vivons, ont très bien compris comment utiliser donc le circuit de la récompense. C'est notamment, on peut penser à ça. À propos des plateformes numériques et de la manière dont sont conçus certains jeux vidéo, certains réseaux sociaux, il y a des discussions en cours très importantes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la conception de ces différents types d'outils légaux, il y a une réflexion sur comment faire pour que les gens les utilisent de plus en plus. Voilà. Donc peut-être qu'on vit tout simplement dans un monde qui pousse où différents types de produits donnant lieu à des addictions sont facilement accessibles et qui poussent aussi à l'addiction. Alors, qu'en sera-t-il demain? On ne sait pas et j'ai pas de boule de cristal, mais il y a déjà des tendances qui se dessinent. D'abord, quand même, on parle de plus en plus des addictions à différentes formes d'utilisation des écrans. Donc, comme je vous le disais, le seul trouble de l'usage aujourd'hui identifié dans les classifications internationales et qu'on étudie vraiment sérieusement, c'est le trouble de l'usage des jeux vidéo. Mais on s'interroge de plus en plus sur l'addiction à Internet et notamment l'addiction aux réseaux sociaux, parce qu'un certain nombre de personnes développent des conduites compulsives on utilise, enfin, les réseaux sociaux sont très largement utilisés, mais parmi les utilisateurs, une partie vont les utiliser de manière incontrôlée, de manière à avoir des conséquences négatives, alors sur le sommeil, sur la scolarité, sur les études, etc. Je l'ai pas mentionné, mais il y a aussi beaucoup de réflexions sur les paris en ligne, les jeux d'argent et de hasard en ligne qui se sont énormément diffusés, qui sont autorisés et qui concernent aussi une partie importante, notamment des jeunes adultes, parce qu'ils ciblent plus les paris sportifs, notamment ciblent plus spécifiquement les jeunes hommes. Donc, on peut s'attendre à ce que ces addictions et d'autres types d'addictions comportementales, les achats compulsifs, le surentraînement sportif, l'addiction, les comportements compulsifs en lien avec le sexe, le travail, etc., se développent si on pense que les normes qui prévalent dans notre société ont quelque chose à voir avec tout ça. Un des éléments qui laisse à penser que quand même la société dans laquelle on vit pousse à certains types d'addictions plutôt que d'autres, c'est l'augmentation très importante de l'utilisation de certains produits stimulants. Donc voilà, comme je le disais, la cocaïne, les amphétamines, l'ecstasy et la MDMA, c'est un peu différent, mais voilà, c'est ces produits-là qu'on consomme de plus en plus. Peut-être parce qu'on a besoin d'être plus stimulé. Un dernier point avant qu'on passe aux questions, si vous en avez, c'est que évidemment les addictions peuvent être multiples et complexes. Et on parle à ce moment-là de polyaddiction. Alors l'alcool et le tabac, par exemple, vont souvent ensemble. L'utilisation de certains types de médicaments avec des produits illégaux et d'ailleurs, se remplacer les uns les autres, soit pour compenser les effets d'un produit par un autre. Et puis, certaines formes d'addiction avec et sans produit peuvent aussi cohabiter. Je ne sais pas si vous avez entendu, si vous connaissez ce nouveau phénomène qui s'appelle le chemsex, qui est très développé dans les communautés homosexuelles gays, qui consiste à associer la consommation de certains produits, en particulier stimulants, avec des comportements sexuels qui peuvent aussi être compulsifs. Les addictions existent depuis longtemps et vont sans doute continuer en se transformant. C'est un sujet vraiment qui reflète peut-être en partie aussi nos modes de vie et la manière dont nous vivons de manière comme ça fait un effet loupe, quoi. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous le souhaitez, on peut passer aux questions.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.